Voilà, il est 14h sur le 666. On poursuit cette deuxième heure avec tout à l'heure notre deuxième invité, l'interview de Begham Kazem Zadegan. Mais en attendant, on revient au disque du mois. C'est toujours l'album Missy, signé Cotton Bellies. En voici un nouvel extrait. Voilà, c'était un nouvel extrait avec Roadside de cet album Missy des Cotton Bellies. Et je suis au téléphone avec notre deuxième invité qui s'appelle Begham Kazem Zadegan. Je le savais. Begham, bonjour.
Bonjour Marco.
Comment ça va?
Ça va très très bien. Bon. Une journée ensoleillée.
Ah oui, alors tout à l'heure on avait Manu Lanvin en direct du Maroc qui faisait beau. Et là c'est en direct de Bain de Bretagne, c'est ça?
Exactement.
Le festival Bain de Bretagne de notre ami Patrick Le Cacheur, dont c'est la 13e édition et qui accueille, on va dire, qui accueille également France Blues. On peut déjà en parler de ça. Il y a une conférence tout à l'heure dans une petite demi-heure, c'est ça?
Oui, absolument. Dans une demi-heure, on a l'Assemblée Générale Annuelle de l'Association France Blues.
Voilà.
Qui se passe cette année à Bain de Bretagne. Donc après, sur Rennes l'année dernière. Et voilà, on fait donc notre petite raout annuelle.
Et voilà. Et donc, dans le cadre d'un festival avec une belle soirée de vendredi, pareil.
Exactement. C'est une très belle première soirée. On a vu de belles choses. On a profité pour voir. Les amis de la communauté blues et ça augure une très belle deuxième soirée.
Un coup de cœur pour toi par rapport à des artistes découverts hier peut-être ou revus?
Eh ben pour moi, c'est sans conteste Révérend Payton, qui a fait une très belle prestation avec une énergie incroyable. Et c'était mon coup de cœur. Ouais.
C'est la première fois que tu viens à Bain de Blues, en terre bretonne, je crois.
Oui, absolument, absolument. Ça fait des années que je voulais venir avec la complexité du boulot, c'est pas évident. Et donc cette année, je suis heureux vraiment de pouvoir être là.
Et tout ça, un petit peu plus d'un mois de la préparation de ton propre festival qui s'appelle Blues sur Suresnes, dont c'est la combienième ? Cinquième édition,
voilà. Oui, cinquième année.
Alors, cinquième édition à Suresnes, donc dans la banlieue parisienne, avec, j'allais dire, comme les autres années, des surprises et découvertes, des concerts traditionnellement, et puis d'autres choses. Il y a des expositions, on va détailler tout ça, si tu veux bien, Bégam.
Oui, avec plaisir.
Alors, ça se passe déjà au niveau des dates, c'est début juin, ça se passe sur une petite semaine.
Exactement, c'est 5 soirées. Donc, ça se passe, les dates, c'est les 4 au 8 juin. Voilà. Exactement. Et effectivement, on a notre particularité, comme tu sais, c'est qu'on est un festival en ville pendant une période qui n'est pas une période de vacances. Mmh. Et on essaie d'avoir le plus de propositions artistiques possibles, donc du 4 au 8 juin. Donc, avec 3 soirées de concerts sur une grande scène, qui sont les jeudis, vendredis et samedi, donc les 6, 7 et 8 juin. Mmh. Et puis d'autres propositions donc pendant cette semaine également.
Alors on peut déjà décliner les concerts. Qu'est-ce que tu dirais pour faire venir les gens jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 juin? Venez voir ce que je vous ai concocté, ce que je vous ai sélectionné. Il y a des artistes français, il y a des étrangers.
Oui.
On peut décliner la programmation si tu veux bien.
Oui, avec plaisir. Donc, comme d'habitude, on essaie d'avoir une programmation à 80% d'artistes français, avec une petite touche effectivement d'international. Donc, on a 3 soirées assez différentes les unes des autres. Donc, une première soirée le jeudi 6 juin avec 2 groupes, dont la tête d'affiche de la soirée qui sera Nico Duportal and the Sparks avec comme invité Benoît Blouvoy, que beaucoup de monde connaissent déjà, mais qui vont faire pas mal de nouveautés également. Et en première partie, on a un plus jeune groupe qui a déjà une grosse expérience, ce sont les Moneymakers, et qui sont un peu dans le même esprit, dans le même environnement, et qui va nous permettre d'avoir une très belle soirée, très, je pense, dansante, sur un style un peu jump blues et rock'n'roll.
Voilà, les Moneymakers qui sont de la région bordelaise, je crois, à peu près.
Ou toulousaine plutôt.
Toulousaine, d'accord. Voilà. En tout cas, c'est le grand sud-ouest, effectivement. The Moneymakers,
oui,
plus Benoît Blouvoy et Nico Duportal. Ça sera pour le jeudi 6 juin, donc débarquement du blues français en règle. Et puis, vendredi 7, il y a un Suisse qui vient se mêler à la fête, je crois.
Exactement. En fait, il y a un Suisse qui s'appelle Max Dega, qui a depuis l'année dernière une nouvelle formation, puisqu'il a rencontré Enrique Parra, qui est l'ancien batteur du Demian Band, qui est un groupe espagnol, qui a décidé de vivre en Suisse, qui est allé jouer. Et donc, ils se sont rencontrés, ils ont décidé de jouer ensemble en 10 minutes. Et donc ça donne un blues assez classique, avec des influences comme Freddie King, par exemple, et qui est très, très sympa. Donc, ce sera une découverte, pour le coup, pour le public. En ouverture de la soirée, avant 2 belles affiches qui vont se succéder le vendredi 7, qui sont donc Rosedale et Gaël Boswell.
Alors là, voilà, tu vas combler les fans, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de l'autre côté du poste. Rosedale qui nous vient de Strasbourg, Gaël Boswell qui nous vient de Paris, qu'on connaît bien aussi en Normandie, ici d'ailleurs.
Oui.
Donc ce sont des formations, on va dire, qu'on va qualifier de montantes dans le paysage musical français.
Tout à fait. Bah, Rosedale, effectivement, plus jeune groupe, là, parce qu'ils ont à peu près 3 ans, je crois, maintenant, qui ont fait un démarrage en fanfare et avec un très bel premier album, et qui sont d'une part, effectivement, excellents, et puis ils jouent une très belle musique, une très belle compo, et qui vont aussi continuer à se développer, parce que visiblement, ils ont de belles dates qui arrivent aussi au-delà de Blues sur Suresnes, parce qu'ils vont jouer en France, en Allemagne, de façon assez importante.
Oui, et puis ils ont une agent également qui s'occupe d'eux. Je crois que récemment, ils étaient en concert en Allemagne. Il y a un petit peu de vent en Bande-Bretagne, on dirait.
Un petit peu, hein, ouais, bah on est en Bretagne.
Hein, tu sais. Voilà. Bah, tu sais, la Normandie, c'est la même chose. Il fait beau plusieurs fois par jour ici. Hein.
C'est ça.
Gaëlle Busvel également, qui étend ses ailes sur pas mal de pays, États-Unis, Japon. Enfin, là, elle est allée déjà un petit peu partout et continue de monter. Elle est en train de sortir son 4e album avec une participation des fans qui a dépassé les 200%. Enfin, bon, une fille qui a vraiment le vent en poupe, tout comme Amandine Rose, la chanteuse de Rosedale. Ils seront là le même soir avec Max de Gabin en première partie. C'est pour le vendredi 7 juin à la salle des fêtes de Suresnes, c'est ça, hein ?
Exactement. Ouais. Ça va être une belle soirée très, très blues rock, quoi, on va dire.
Eh oui. Alors, quoi de mieux c'est de passer toute la journée du samedi 8, parce qu'il y a des choses en dehors, peut-être, des concerts traditionnels. Je te laisse en parler.
Oui, absolument. Donc c'est la journée la plus dense du festival, parce qu'on profite du week-end pour essayer de faire une grosse proposition. On commence le matin à 11h avec un spectacle jeune public,
ouais,
qui s'appelle Herman Loup Noir, ouais, qui est un très très beau spectacle. Donc avec cet artiste qui est seul sur scène, qui a construit toute une histoire qui lui permet, à travers le personnage d'un loup, de traiter de pas mal de questions, les questions sociales, également sur le racisme, etc. Évidemment, le situer dans le monde du blues, comme on peut le connaître en grande partie.
D'accord.
Et qui joue tout seul sur scène, de la guitare, du dobro, et qui va essentiellement diluer pour le jeune public de grands standards, que ce soit en anglais, mais également en français.
Ouais. Très bien. Et tout ça, c'est à partir de 11h, et je note entrée libre, salle du Conservatoire de Suresnes.
Absolument, absolument.
Ensuite, dans l'après-midi, et là, on va refaire un petit clin d'œil à un Breton qu'on adorait, c'est un de nos grands amis. Je veux parler de Pedro, qui n'était pas le seul, bien sûr, à faire ce genre de choses, mais c'est Lefty Dom qui va s'y coller, que connaissait bien Pedro également. Un stage de fabrication d'une cigar box guitare et un showcase. Ça, c'est un truc jamais vu, ça.
Exactement, ouais. Lefty Dom, effectivement, tout le monde connaît, c'est un gars adorable. Qui joue en duo avec son collègue Lionel Da Silva, qui lui animera en parallèle un stage d'harmonica, de nouveau cette année, comme l'année dernière.
Voilà.
Dom fait de plus en plus ce genre de choses, il partage son expérience, son amour des instruments et de la fabrication d'instruments à partir de récupération, et il produit des jolies choses. Donc là, c'est un atelier, effectivement, où on a un maximum de 10 participants, parce que c'est un peu compliqué.
Il y a encore de la place, peut-être
Il y a encore un peu de place, mais il ne faut pas tarder, parce qu'on est déjà rempli à moitié, grosso modo.
Je note un tarif complètement compétitif, parce que le prix comprenant la guitare et les quelques heures pour fabriquer, c'est 50 euros.
C'est 50 euros, on a fait ce choix-là, effectivement. En fait, Blues sur Suresnes subventionne le reste du budget sur cette opération. Et on demande juste une participation de 50 euros aux participants.
Voilà. De même, pour ceux qui souhaitent assister au stage d'harmonica de Lionel Da Silva, ça dure 3 heures. Il y a un harmonica fourni, il y a un petit showcase après. C'est seulement 20 euros par personne. Mais encore, c'est très compliqué.
Exactement, absolument.
Ouais, incroyable. Et à partir de 19h, on part sur les concerts. Là, ça les fait, hein.
Et oui, encore. Donc, ce sera la soirée de clôture avec en ouverture un jeune de la région de Tours qui a participé au tremplin du Festival de l'Herbe l'année dernière.
Que je ne connais pas, n'étant pas présent ce jour-là. Et voilà, il faut signaler que tu te rends aussi dans les tremplins pour faire des repérages et découvertes. Et ça, c'était ton coup de cœur 2018, alors ?
Exactement, exactement. Et c'est un garçon très très gentil, adorable, qui fait une musique qui sort un petit peu de l'ordinaire des one man band. En fait, il joue avec Weizenborn et avec des harmoniques qui sont très très belles. Et du coup, il met un mélange de blues et de folk, notamment.
On peut penser à Ben Harper, John Butler, par exemple, en l'écoutant.
Exactement, exactement. Ce sont ces
influences. Olivier Gauthier, peut-être aussi.
Tout à fait, aussi.
Je remarque, parce que là, on en a presque fini avec cette soirée du samedi, mais je me faisais la réflexion, il y a beaucoup d'éléments féminins à la tête de groupe. On parlait de Gaëlle Busvel, on parlait de Rosedale. Ça sera le cas également pour les deux groupes qui vont clôturer le festival le samedi, hein.
Absolument, absolument. Bah, écoute, c'est un peu mon péché mignon, si je puis dire. J'aime beaucoup les chanteuses qui ont de belles voix. Et effectivement, là, on a donc juste après Elephant, donc Olivier, qui va enflammer, je pense, le public. C'est Galia and the Mama's Boys.
Eh oui, Galia.
Pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est quelqu'un qui a une énergie incroyable sur scène. C'est une Belge, une jeune Belge qui vit à la Nouvelle-Orléans. Donc, et son groupe, ce sont des gens de la Nouvelle-Orléans, les Mama's Boys.
Les Mama's Boys de Johnny Mastro, il faut le dire, parce que ça, c'est des gens qu'on ne voit pas si souvent que ça par chez nous. Hein.
Absolument, absolument. Donc Johnny Mastro, effectivement, et Mama's Boys étaient passés en France il y a quelques années, mais on ne les a pas vus depuis longtemps. Mmh. Et là, ils soutiennent, ils font plus que soutenir Galia, qui fait un show assez extraordinaire. Moi, je l'ai rencontré dans un festival en Suisse l'année dernière. Elle m'avait impressionné par le c'est une showwoman, quoi. Donc, voilà, et ben, je pense plaire à beaucoup de gens. Mmh. Voilà.
Et pour terminer, on va retourner de l'autre côté de l'Atlantique, mais côté canadien, avec une Anglaise qui a émigré là-bas il y a une petite trentaine d'années, qu'on connaît pour être une chanteuse canadienne, mais d'adoption.
Oui.
Dawn Tyler Watson.
Absolument, absolument. Accompagnée du Ben Racine Band. Donc, il y aura comme le jeudi soir, une très grosse formation sur scène avec plus de 8 musiciens, avec Dawn Tyler Watson, qui est quelqu'un effectivement qu'on connaît un peu déjà, on l'a déjà vu en France, elle a une voix extraordinaire, une présence scénique formidable et qui du coup va faire effectivement un show incroyable. C'est la seule non-américaine, à ma connaissance en tout cas, qui a gagné l'International Blues Challenge à Memphis.
D'accord. Voilà. Eh bien, ça, c'était déjà une belle performance. On écoutera tout à l'heure des extraits de la discographie de ces artistes-là. Je parlais de Dawn Tyler Watson sur l'album que je vous proposerai. Elle sera associée à un de ses inséparables compagnons, Paul Deslauriers. On écoutera Rosedale, on écoutera Gaël Busvel, on écoutera Benoît Blueboy. Mais je voudrais quand même qu'on fasse un petit point technique, peut-être, Bégam, à propos de ton festival. Bluessursurène.com, c'est là qu'on peut trouver tout et le reste sur le festival. La politique tarifaire, elle aussi, elle est très douce, en fait.
Oui, comme chaque année, on essaye d'avoir effectivement une politique tarifaire qui soit la plus accessible au plus grand nombre. Donc, parce que voilà, on arrive aujourd'hui par rapport à notre structure à le faire avec nos partenaires. Moi, je souhaite vraiment qu'on puisse donner un accès à ces artistes et à ces concerts ou aux autres événements. Au plus grand nombre. Donc on fait sur les préventes, on a une soirée qui est à 12 euros en tarif plein.
Ah oui.
Pour deux ou trois concerts par soir et un pass qui est à 30 euros. Voilà, pour les trois soirs.
Voilà, c'est des tarifs qu'on peut comparer à des tarifs clubs et encore des clubs pas chers. genre le Souboc, par exemple. Mais bon, voilà, c'est juste incroyable. Alors évidemment, il y a tout un montage financier. On va peut-être pas forcément tout détailler, mais évidemment, j'ai envie de dire, Bluessursurène va chercher un budget du côté du privé, du côté du public.
Oui. Absolument. En fait, on a nos partenaires qui sont des mécènes, des sponsors, qui sont aujourd'hui majoritairement privés, qui nous aident effectivement beaucoup. La ville de Suresnes nous soutient de plus en plus, donc y compris un petit peu financièrement cette année pour la première fois, et avec un soutien de en termes de support de communication, de logistique également, qui est assez importante. Et donc c'est grâce à ces partenaires, effectivement, et on est obligé d'en parler parce qu'ils sont importants dans notre dispositif, qu'on peut proposer cette semaine de festival avec ces tarifs.
Voilà. Bégam, pour être tout à fait complet, là encore je redonne le site internet bluessursurène.com, mais en quatre noms, on pourrait peut-être résumer toutes les autres activités en dehors des concerts qu'on vient d'égrener. Sylvie Bosque, les Flying Saucers, Éric Douady et Étienne Mortini. Alors voilà, respectivement photographe, musicien, écrivain et réalisateur. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'ils vont faire dans ton festival ?
Oui, absolument. Alors, les Flying Saucers, qui sont un super groupe français, qui ont cet amour pour les musiques de la Louisiane, je leur ai demandé cette année, c'est un petit peu une adaptation de leur historique et de ce qu'ils ont voulu pouvoir proposer en fait à Boussures-sur-Aisne cette année. C'est une sorte de concert live, mais de conférence sur justement la richesse des musiques de Louisiane, ouais. Avec une approche de live, de morceaux, de leur répertoire et de reprises, mais également une présentation des différents instruments, de la façon de les utiliser dans les différentes régions, des différentes influences, construites au fur et à mesure de l'histoire. Donc voilà, donc on a cette approche un peu plus pédagogique et de culturel qui vient s'ajouter avec les Flying Saucers et les musiques de Louisiane le mardi 4.
Voilà. Il y a une amie du festival qui vient, elle, de la région toulousaine aussi, c'est Sylvie Bosque.
Absolument, absolument. Donc Sylvie est une super photographe, enfin reconnue dans plein de milieux, et évidemment dans le blues également. Cette année, on a voulu particulièrement mettre en valeur un projet qui nous tient à cœur, parce que Boussures-sur-Aisne est partenaire de ce projet qui a été initié par France Blues, notre ami Fred Delforge, et Zika Zik notamment, qui est donc c'est le projet En Terre de Blues, et dans lequel on a, à partir d'un de voyage dans le Mississippi, en fait, d'une part, effectivement, une exposition photo de Sylvie Bosque. Donc cette année, elle vient avec plus de 25 nouvelles photos qui ont été réalisées sur ces derniers voyages. Donc l'expo sera disponible pendant la semaine du festival, évidemment, mais jusqu'à la fin du mois de juin également. Mmh. Et puis, En Terre de Blues, c'est également deux autres choses. C'est un livre qui est sorti en fin d'année dernière, avec des photos de Sylvie Box et des textes qui ont été écrits par des acteurs du blues français, enfin européens et internationaux.
Qui sont très nombreux, hein, qui sont plus de 50, je crois. Hein.
Absolument, plus de 52 personnes en fait qui ont contribué à ce livre. Et donc on mettra évidemment l'ensemble du projet avec l'expo, ce livre pour lequel il y aura une présentation pendant le vernissage le 4 juin à partir de 18h30. D'accord. À la médiathèque de Suresnes, et également une séance de dédicaces et de rencontres qui se passera le samedi 8 juin à la librairie du Point de Côté. La librairie du Point de Côté, évidemment, est un partenaire important, puisqu'on aura Eric Gaudy cette année, ouais. Qui viendra animer notre habituelle conférence sur un des thèmes de l'histoire du blues. Cette année, donc, c'est le blues rock américain, à partir de son livre Buried Alive in the Blues. Et Eric Gaudy sera présent, donc, à 19h à la librairie du Point de Côté à Suresnes.
Très voilà. Bien. Et puis, on pourrait être tout à fait complet. Étienne Mortini, réalisateur de ce fameux documentaire En Terre de Blues, dans les pas de Sylvie, en fait, l'observateur de l'observatrice de la vie du blues, qui fait partie régulièrement de ces périples qui ont lieu toujours au mois de janvier, hein, pas forcément par une super météo. Tu peux en témoigner, les gars.
Oui, absolument. Hein, effectivement, à cette période, il fait extrêmement froid là-bas, donc voilà, on se couvre bien. Étienne, effectivement, a l'habitude de filmer tout ce qui se passe, évidemment, pendant ce voyage. Évidemment, il y a une partie importante qui est l'IBC sur le voyage, mais toute une semaine également de périple dans le Mississippi. Et chaque année, il en ressort avec un thème un petit peu différent. Il essaie de mettre en valeur beaucoup de choses. Évidemment, le focal principal est de suivre Sylvie dans son observation des États-Unis et de cette région des États-Unis, mais également de mettre en valeur quelques épisodes qui nous touchent, qui sont pleines d'émotion, avec les musiciens ou les participants à ce voyage. Et donc cette année, on aura la chance d'avoir dans cette projection, avec la présence d'Étienne, en fait, au cinéma Le Capitole, qui est notre nouveau partenaire de cette année, et j'en suis très heureux. On aura la diffusion d'En Terre de Blues, donc de l'épisode de ce qui s'est passé l'année dernière, et une présentation d'une dizaine de minutes de ce qui s'est passé en 2019.
Super, voilà. Et tout ça pour la somme astronomique de 5,50 €, messieurs, dames.
Oui, absolument. Alors voilà. Pareil, on essaye de faire quelque chose qui soit intéressant. En fait, on a fait un package, si tu veux, entre la librairie. Après, on propose aux gens d'aller au cinéma, et là, ils peuvent passer par un buffet qu'on leur offre. Un buffet dînatoire, et juste après le buffet, ils vont dans la salle de cinéma s'installer confortablement pour En Terre de Blues.
Eh bien, si on n'est pas bien accueilli à Boussures-sur-Aisne, c'est que vraiment, il faut être très grincheux. Alors voilà, belle présentation, hein, de ce festival qui fête sa cinquième édition, à laquelle je ne vais malheureusement encore pas pouvoir assister cette année, Bégam, parce que, calendrier oblige, mais je ne désespère pas pour 2020.
Oui.
Voilà, parce que
ce sera avec plaisir.
Ça sera avec plaisir partagé.
Je l'espère.
Je te laisse travailler parce que tu te rends maintenant à l'Assemblée Générale de France Blues. Tu pourras passer le bonjour à tous ceux que je connais là-bas, y compris à Fred Delforge, bien sûr, et puis à toute l'équipe de Band Blues qui vous concocte encore ce soir un beau programme. Merci, les gars, pour tout ça. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question ou est-ce que j'ai oublié de te demander quelque chose?
Eh bien, écoute, non, je crois que t'as pu être totalement complet. Et moi, je te remercie infiniment de ton accueil et encore de ce petit moment avec tes auditeurs.
Je t'en prie, avec plaisir. À bientôt, Bégam.
À très bientôt, Mac.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Should be settling down.
I hope you feel like I do. If you only knew,
I kept the secret
from when we met the first time.
Want to be closer?
Yeah, I want you to be mine.
You got the sweetest
voice I've heard.
But then you leave me
all at loss for words.
I hope you feel like I do. If you only knew. If you only knew. You've entered my heart like some kind of disease. The smoothest transition made with the greatest of ease. If you only knew.
C'était Down Tyler Watson avec Paul Delaurier, l'album Southland qui est sorti en 2013, Down Tyler Watson qui fera partie de la programmation 2019 de Blues sur Suresnes, tout comme Rosedale.
Out.
Racing at the Wheel, c'est un extrait de Wide Awake, l'album 2018 chez Dixie Frog du groupe Rosedale, qui seront le vendredi 7 juin au festival Blues sur Suresnes. Et pour ceux qui ne veulent pas attendre, vous venez au Sous-Bock le samedi 25 mai, ce sera la même formation. Voilà, Rosedale. On poursuit avec un extrait de l'album de notre troisième invité. Il s'agit de Cisco Herzhaft, l'album Son of a Watchmaker. Voici Shake It Baby et on leur téléphone juste derrière. Shake it. Shake It Baby, reprise de John Lee Hooker. Ça fait partie de Son of a Watchmaker, le tout nouvel album de Cisco Herzhaft, que j'ai au téléphone avec grand plaisir. Bonjour Cisco.
Bonjour.
Comment va ?
Oh bon, ça va très bien.
Tout à l'heure, on était en Bretagne avec Monsieur Begham Kazem Zadegan. On était au Maroc avec Manu Lanvin. Et là, on est en Belgique avec Cisco Herzhaft. Oh, elle est juste à la frontière entre Lille et Mouscron, c'est ça ?
Entre Lille, j'habite à Moucron même.
À Moucron, voilà.
Moucron. Entre Lille et Courtrai, oui.
Entre Lille et Courtrai, et ça depuis longtemps.
Ça fait 13 ans maintenant que, voilà. que j'habite là.
Cisco Herzhaft, bluesman since 1947, bluesman depuis 1947. C'est quelque chose que tu revendiques, Cisco ?
Pas tout à fait depuis 1947, parce que c'était ma date de naissance.
Ben voilà.
Par contre, depuis 1960, écoute, j'ai commencé en 1964 à jouer du blues.
Ouais, c'est quelque chose que tu racontes dans une des chansons de ce nouvel album. Les années, c'est quelque chose d'important pour toi ? C'est ce qui rythme une vie ?
Ben, ça commence à devenir important, oui, tu sais.
C'est vrai ?
C'est une question d'âge.
Bon, c'est une question de sagesse aussi, peut-être.
Oh, il y a les deux, oui, c'est sûr.
Ouais. Ça vient toujours ensemble, l'âge et la sagesse, ou est-ce que...
Sans doute pas, mais ça peut arriver, quoi. C'est pas plus mal.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1964, ta découverte du blues ? On va pas résumer toute une vie de blues, bien sûr, en quelques minutes à la radio, mais il y a des faits marquants, il y a des rencontres peut-être déjà.
Ben oui, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance quand même de pouvoir voir vraiment en live tout un tas de bluesmen qui ont créé le blues pratiquement.
Oui.
Des gens qui m'ont marqué énormément, comme Big Joe Williams, comme Fred McDowell, qui m'a montré dans un petit moment d'intimité comment on joue du slide. Des gens comme Son House que j'ai pu voir. Enfin, c'était extraordinaire. Pour moi, c'est un des souvenirs impérissables. Et puis, bien sûr, j'ai rencontré, alors là, un peu plus, de manière un peu plus proche, John Lee Hooker,
oui.
avec qui j'ai eu la chance de tourner un petit peu. On a joué ensemble sur quelques concerts en 1969.
1969, ça nous mène un petit demi-siècle en arrière. Déjà, collaboration avec John Lee Hooker, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans ta mémoire, quelque chose de marquant ?
Ah ben oui, c'est-à-dire c'était un bonhomme, c'était d'abord improbable, hein, franchement. En plus, c'était un bonhomme absolument charmant et qui m'a donné de précieux conseils sur le blues, puisque je voulais en jouer, même si après avoir joué avec Johnny Hooker, je me suis interrompu pendant un peu plus de 20 ans. Mais c'était quand même un but dans ma vie de continuer le blues. Mmh.
John Lee Hooker, qui n'est pas forcément le créateur du blues, mais en tout cas une des grandes figures du blues d'après-guerre, un style dont tu te revendiques, le blues acoustique, le Piémont blues, qu'est-ce qui te caractérise dans ton jeu de guitare ? Il y a Olivier Durousseau là, qui nous suit sur Facebook, qui te pose une question. D'où vient son jeu de guitare particulier à Monsieur Cisco Herzhaft ?
Alors bon, moi j'ai commencé à jouer de la guitare et puis j'entendais des bluesmen comme Bibi Brunzi, surtout Lightnin' like Hopkins, Bibi Brunzi, Joe Williams, etc. et des folk singers, enfin, des gens de la country music comme Doc Watson, que je trouvais génial. Et j'essayais de jouer avec ma guitare alors que j'avais pris 3 leçons avec une prof de violoncelle parce que je trouvais pas de prof de guitare. Et un jour, grâce à ma sœur qui habitait en Angleterre, je suis allé la voir et j'ai rencontré un gars qui s'appelle John James et qui jouait du finger picking, du finger style.
Ouais. Ouais.
Et il m'a montré les rudiments. Je l'ai vu plusieurs jours de suite. Il m'a montré les rudiments des pickings. Et avec ça, j'ai travaillé tout seul en écoutant les gens que j'adorais, les musiciens que j'aimais, et en essayant de reproduire ce que je n'ai jamais réussi tout à fait. Mais par contre, du coup, j'ai acquis un style personnel.
Oui, tout à fait.
Le fait de ne pas avoir eu de leçons véritablement. J'ai acquis un style personnel. c'est ça l'histoire.
Il faut rappeler quand même que on est à une époque, ça on va le dire pour les plus jeunes, où il n'y avait pas Internet, bien entendu, et forcément, pour écouter des musiciens en dehors des concerts, il y avait uniquement le disque.
il n'y avait que les disques et encore, ils étaient très difficiles à trouver.
C'est ce que j'allais te demander là. Justement par rapport à cette époque-là. On venait tout juste de découvrir le blues en France. Enfin, les American Folk Blues Festival depuis 1962, ça marche bien en France, en Allemagne. Mais on a du mal à imaginer cette époque-là. Toi qui as un petit peu de recul par rapport à certains autres, comment est-ce que tu vivais ça à l'époque ? C'était une grosse baffe, c'était une découverte, c'était quoi ?
C'était une, bon, déjà, c'était extraordinaire, hein, l'American Folk Blues Festival, c'était formidable, hein. C'était les seuls concerts de blues dans l'année, hein. Il y avait un concert de blues dans l'année, c'était l'American Folk Blues Festival.
On a du mal à imaginer ça.
Il n'y avait pas d'autres concerts de blues. Il y avait quelques fois, alors après, par la suite, hein, ça s'est un peu développé, dans des festivals de jazz, on pouvait voir un bluesman un peu perdu là-dedans. Comme par exemple, quand j'ai rencontré Johnny Hooker, c'était sur un festival de jazz à Andernos.
D'accord.
Et alors à cette époque, pour trouver des disques de blues, c'était les galères. On trouvait même Pichlin, parce qu'il s'était installé en France après 62, après être venu avec American Folk Blues Festival. Donc il enregistrait pas mal en France. Ce qui fait qu'on trouvait ses disques, mais à part ça, il n'y avait rien.
Alors il y a eu quelques bluesmen qui se sont installés en France et qui ont, ou en tout cas qui ont élu résidence pour quelques temps. Des gens, tu viens de citer Memphis Slim, effectivement, juste après son départ d'Israël. Il y a eu peut-être un petit peu aussi T-Bone Walker, qu'on voyait assez souvent à la fin des années 60 chez nous.
Alors je l'ai vu d'ailleurs, il m'a même prêté sa guitare, c'était en 68. En 68, il a prêté sa guitare parce qu'il était un peu bourré.
Ça veut dire que s'il avait été à l'autre vitale, il aurait gardé sa guitare, c'est ça que tu veux dire?
Non, il était allé aux toilettes, je crois, se rafraîchir un peu. Ah. Et il m'a passé la guitare à Nioh pendant que je vais aux toilettes. Alors je ne sais pas quoi en faire exactement, parce que je n'avais jamais joué de guitare électrique. Mais il lui a rendu sa guitare dès qu'il est revenu. Mais c'était un bonhomme, bon, c'était un farfelu, hein, comme beaucoup de bluesmen que j'ai pu rencontrer. Mais pour revenir à l'histoire des disques, pour les trouver, c'était épouvantable. Alors j'avais la chance d'habiter à Boulogne-sur-Mer. Il y avait le bateau pour Folkestone, donc de l'autre côté de la Manche, en Angleterre. Et là, il y avait un disquaire où j'allais de temps en temps. Donc je prenais le bateau, je faisais un aller-retour dans la journée. Et il y avait un disquaire chez qui je me fournissais quelques disques, folk et blues. Et ce que je connaissais pas grand chose, donc je prenais ce que je trouvais. Et puis après, grâce à un disque de Folkways, j'ai pu voir qu'il y avait un magazine qui s'appelait Sing Out aux États-Unis, auquel je me suis abonné. Et je suis devenu donc sans doute un des tout premiers abonnés français de Sing Out. Et avec Sing Out, j'avais des publicités pour des disques et j'achetais après mes disques aux États-Unis. Je les faisais venir des États-Unis.
Voilà, et on rappelle encore une fois, pas d'Internet évidemment, et même pas la radio, parce que Radio Caroline, c'était la fin des années 60, mais bon, tu écoutais Radio Caroline ou pas encore?
Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai découvert des tas de choses grâce à Radio Caroline, mais c'est vrai que c'était quand même très rock. Hein.
Ouais,
quand même très rock. Mais j'ai découvert plein de choses. Hein. Il y avait parfois du blues, il y avait parfois de la country. C'était vraiment, j'ai découvert des tas de trucs avec cette radio. Mais bon, les livres, c'était irremplaçable. Et c'est vrai qu'il n'y avait ni Internet. La radio française, c'était même pas la peine d'en parler. La télé, alors là, rigolons.
Ouais, et même encore maintenant.
Et les concerts, il n'y en avait pas.
Tu parles de rock, et c'est vrai qu'il y a eu une collusion entre les années 65-70, entre le blues et le rock. Il y a eu des collaborations, Muddy Waters, Howlin' Wolf. Enfin, c'était des gens qui avaient été découverts par des rockers anglais. On peut parler des Rolling Stones, mais il y a eu beaucoup d'autres artistes comme ça. Très très inspiré par le blues.
Bien sûr.
Est-ce que ce Sonny Boy Williamson, tiens, ça me vient tout d'un coup. Est-ce que ce genre de collaboration comme ça perdure avec le temps? Ce que tu as constaté, ça a perduré dans les années 70-80 ou ça avait vraiment été une mode à l'époque?
Ça a perduré quand même. Il faut bien dire quand même que les rockers qui avaient beaucoup plus de succès que les bluesmen, hein, on fait connaître le blues. Hein. Il y a même des gens qui ont sauvé. Je me souviens de Johnny Hooker en 69. Il n'était pas riche. Hein. Il me disait que ça ne marchait pas très bien. et qu'il pensait retravailler chez Ford.
Ah oui, d'accord, carrément.
Il s'était arrêté de travailler chez Ford quelques années plus tôt, et il me disait, je veux peut-être retravailler chez Ford parce que ça ne marche pas très bien. Et l'année d'après, en 70, il y a les Candy qui l'ont pris sous leur aile pour enregistrer avec lui, et ça lui a permis de rebondir.
Voilà,
et il a rebondi comme ça des tas de fois grâce au bluesman. Après, il y a eu Van Morrison, etc.
C'est comme ça qu'il a passé la dernière trentaine d'années de sa vie en Californie, monsieur Johnny Hooker, notamment
oui,
aussi.
Oui, il est à San Francisco. Oui.
Voilà, grâce aussi à la carrière de Santana, qui lui a donné un large coup de pouce à la fin. Hein.
Alors ça, il est devenu une star avec ça.
Ouais.
Mais bien avant, il y avait quand même tous les rockers anglais et américains qui ont essayé d'aider les bluesmen. Hein. Candid en particulier, qui ont même sauvé la vie de Floyd Jones à un moment donné. Enfin, c'était des gens qui marchaient beaucoup mieux que le blues. Hein.
Ouais.
Bon, pour moi, qui était un fan de blues et de la première heure, quoi. Je trouvais que c'était des copieurs. J'avais quand même un regard assez critique sur ces gens-là. Je trouvais qu'ils avaient un accent épouvantable parce qu'ils chantaient le blues avec un accent anglais. Et en plus, je trouvais que c'était des copieurs.
Ouais. Alors pendant toutes ces années-là, les années de formation, les années 60, Cisco, toi tu peaufines ton jeu de guitare, ton chant qui devient voilà ce qu'il est maintenant, un beau chant grave et profond, un peu la voix que tu as naturellement, j'ai envie de dire. Hein. Tu n'es pas toi un copieur ou un imitateur. Tu te montres sur scène et sur disque comme tu es dans la vie, j'ai l'impression.
Ouais, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, bon, le chant, la manière de chanter grave et profonde, je l'ai acquise un peu avec l'âge aussi. Hein.
Ouais.
J'avais pas cette voix-là quand j'étais jeune. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai arrêté en fin 69, j'ai arrêté de me produire pour faire des études, etc. Faire une autre vie. Et je n'ai repris que quasiment 25 ans plus tard.
Voilà, d'accord. Alors, rappelons l'existence de Gérard, ton frère, dont on parle dans pas mal d'interviews, j'ai l'impression. Rappelons que lui, en tant qu'ethnomusicologue, auteur de plusieurs éditions de l'Encyclopédie du blues, de plusieurs romans autour du blues, voilà, c'est quelqu'un avec qui tu as travaillé aussi.
Ah ben oui, oui.
Vous avez collaboré.
On a même fait des disques ensemble. Et puis au niveau de l'histoire du blues, on reste toujours très proche. Hein.
Ouais.
On s'appelle régulièrement et on raconte ses dernières découvertes parce qu'il continue à fouiller l'histoire du blues et repêcher des bluesmen complètement inconnus pour essayer de les faire un peu connaître. Et il continue à travailler là-dessus, et puis on échange toujours sur cette histoire du blues, et il n'arrête pas de découvrir des tas de nouvelles choses.
Une histoire de blues qui continue en 2019 avec notamment cet album Son of a Watchmaker, sur lequel je te propose de revenir. On écoutait tranquillement John Lee Hooker derrière, en fond, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais je voulais un petit peu illustrer ça avec l'autre voix grave et profonde du blues, c'est John Lee Hooker. Voilà, et on va revenir sur ton disque, parce que c'est un disque traditionnel et c'est un disque moderne à la fois, parce qu'il y a des petites surprises comme ça. Je te laisse nous en parler si tu veux bien.
Oui. Alors, j'avais collaboré avec un rappeur.
Ouais.
Qui s'appelle Rockin' Squat. Enfin, je collabore. On a un peu interrompu parce qu'il avait des tas d'autres activités, moi aussi. Mais on avait monté un projet avec Rockin' Squat. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'était le leader du groupe Assassin.
Non, alors donc, moi, ça ne me parle pas parce que ce n'est pas tout à fait mon univers, mais j'imagine qu'il devait être connu dans son style, ouais.
Ben là, c'était un pionnier du rap en France et qui a été très très connu. Il a fait une vingtaine de disques d'or, enfin vraiment. Quelqu'un de très connu à l'époque du démarrage du rap. Et Rockin' Squat, c'est Mathias Cassel, hein, c'est le frère de Vincent Cassel.
D'accord.
Et avec lui, on a monté on dit aujourd'hui, les jeunes, ils disent un projet. Alors disons un projet qui s'appelle Jungle Blues.
Oui.
Qui s'appelle Jungle Blues, et où il y avait mon style de blues traditionnel avec mes musiciens habituels, Bernard Brimmer, Patrick Cassotti, Geneviève Hurtevel à l'harmonica, et on a monté donc mon blues avec du rap, entrecoupé de chants que je chantais, du blues, et au milieu des paroles de rap de Rockin' Squat.
Et
on avait monté ce projet qui s'appelle Jungle Blues, qu'il y a pas mal. On a joué une douzaine de fois. C'était plutôt sympathique. Et Rockin' Squat m'a amené, dans ce projet, il m'a amené un gars qui s'appelle Mike Flo, qui s'est appelé Mike Flo, qui est beatboxer, qui joue donc de la batterie ou des instruments divers avec la bouche. Hein. Et j'ai trouvé ça super, moi j'ai trouvé ça génial. Et donc on a même monté un projet ensemble avec le beatboxer, en duo cette fois-ci. Et c'est pour ça que sur le disque, il y a un titre en duo avec le beatboxer.
Ouais.
Et Old Back Train, ça s'appelle le titre. Et il y a un titre où aussi j'ai invité Rockin' Squat à faire quelques paroles de rap. Qui s'appelle I'm a Blues Vet.
C'est celui qu'on entend actuellement.
I'm a Blues Vet.
Alors, I'm a Blues Vet, je suis un vétéran du blues, c'est ça qu'il faut traduire ?
C'est ça, exactement.
Alors, on l'écoutera en entier tout à l'heure, parce qu'il y a un truc que je déteste à la radio, quand j'écoute ou quand j'en fais, c'est de couper les morceaux. Donc là, c'est juste par rapport à une petite illustration sonore, mais on écoutera ça, je le dis pour les auditeurs, en entier tout à l'heure, et I'm a Blues Vet et Old Black Trail. Voilà, ce sont les deux prochains extraits. Son of a Watchmaker, voilà le côté un petit peu moderne, j'ai envie de dire, que tu apportes à ta musique. C'est un prolongement naturel, le beatbox, le rap, c'est un prolongement naturel du blues pour toi ?
Mais j'ai découvert ça totalement par hasard, je t'avoue. Je ne le connaissais absolument pas. Et grâce à ce projet, en plus la rencontre avec Rockin' Squat s'est faite de manière totalement par hasard dans un petit club parisien où je jouais trois morceaux et il était là et on a sympathisé. Et il m'a proposé en fait d'abord de faire sa première partie au Casino de Paris.
Ouais. Carrément.
Et donc j'ai joué avec Bernard et Patrick en trio la première partie d'un rappeur au Casino de Paris devant 2500 personnes.
Wow.
Et on a eu un franc succès. Donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est un public jeune ? Et je t'avoue que là, c'est quand même agréable d'avoir un public jeune. Mmh. Parce que dans le blues, on commence quand même à avoir un public qui vieillit.
Ça, c'est quelque chose, j'osais pas t'en parler, parce que, bon, également sur scène, hein, y a encore des jeunes, bien sûr, mais tout le monde prend un an tous les 365 jours, et le renouvellement n'est pas forcément au rendez-vous. Surtout quand, tu sais, on prend une photo du public, vue de derrière le public, et là, on a toutes les tonsures dans la salle qui apparaissent. Et c'est vrai, voilà, le blues est pas encore en perdition quand même, Cisco, rassure-nous.
Non, bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Je pense qu'il y aura toujours un renouveau, il y aura toujours des gens qui vont s'y intéresser. Parce que bon, déjà, si ça avait besoin d'un renouveau, ça n'existerait déjà plus depuis longtemps. Parce que c'est quand même né aux alentours. Ça a commencé à être enregistré aux alentours de 1920.
Oui.
Donc, mais par contre, le fait de jouer, par exemple, avec un beatboxer, le duo que j'ai monté, là, avec où on a fait une résidence à Chamonix, là, chez le batteur, le pianiste, je ne sais plus son nom.
Fabrice Ollery.
Manoukian.
Non, allez, Manoukian. Oui, André Manoukian.
André Manoukian. Et on a donc monté ce projet en résidence là-bas. Et il y avait donc deux concerts. Et là, j'avais un public et à la fois du blues et du beatbox. Et les gens du beatbox découvraient le blues. Donc les gens du hip-hop, hein, découvraient le blues, et il y en a plein qui venaient me voir, qui ont acheté des CD d'ailleurs, qui venaient me voir en disant « mais c'est super, je ne connaissais pas du tout cette musique ». Donc il y a quand même une volonté dans ces projets de faire du prosélytisme, comme j'ai toujours fait toute ma vie, le prosélytisme du blues, et là ça a l'air de marcher pas mal. En plus, moi je trouve que ça se marie très 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 bien. Ça se marie très très bien.
Écoute, on va s'en rendre compte tout à l'heure. Moi qui ai écouté l'album, c'est vrai qu'il est en train de sortir. Hein, ça reste une nouveauté que, à mon avis, seuls les gens qui assistent à tes concerts possèdent encore. Mais ça ne va pas tarder à être distribué un peu partout. Voilà, moi j'en témoigne. Ça fonctionne. On se demande comment il n'y a pas davantage d'artistes qui peut-être creuseraient un petit peu le filon et pourquoi pas essaieraient d'en vivre un petit peu plus décemment, d'en vivre un peu mieux, quoi.
Mais c'est-à-dire que c'est une opportunité très intéressante,
oui,
je trouve. très intéressante. Bon, il y a des aspects très pratiques. Hein. C'est un beatboxer, c'est plus facile à transporter qu'une batterie. Hein.
Aussi, oui. Mais... Effectivement. Mais, comme donc, disait Jean-Jacques Milteau, l'accordéon, c'est le piano du pauvre, alors je ne te raconte pas l'harmonica.
C'est pareil. C'est un peu ça, voilà. C'est un peu la même histoire. Et ça marche très, très bien. Mmh. On a monté le spectacle. Moi, je trouve que ça se marie très, très bien. Et je pense, d'ailleurs, j'ai entendu des morceaux par Cedric Burnside, le petit-fils de Albert Burnside, qui a un cousin, je crois, qui fait du rap. Et il y a un morceau où ils ont improvisé tous les deux, c'est absolument formidable. Mmh.
Et d'ailleurs, R.L. Burnside lui-même avait enregistré, à la fin de sa carrière, je crois que c'était autour de 2005, un album fortement teinté d'électro et de rap, lui-même.
Ben voilà.
Malgré...
Voilà. Pourquoi pas ? Alors, qu'on aime ou on n'aime pas, mais toujours est-il, c'est intéressant. Mmh. C'est vraiment intéressant.
C'est une histoire de métissage pour toi, la musique, d'abord, ou c'est la pureté des racines qui compte en premier ? Comment ça fonctionne ?
Ni l'un ni l'autre. Je crois que c'est le plaisir. C'est le plaisir, le plaisir que l'on prend à l'entendre, plaisir que l'on prend à louer. Je crois que c'est ça, la musique. Hein. C'est le plaisir que l'on donne aussi aux gens qui l'écoutent. C'est un art, donc l'intellectualiser un peu, c'est sûr qu'on peut l'intellectualiser, c'est pas interdit, et c'est même parfois plutôt bien, mais avant tout c'est un art, c'est-à-dire que ça se goûte, ça se déguste.
Ça ne s'explique pas forcément.
Non, pas forcément.
On peut retrouver toute ton actualité sur le site internet www.cisco-herzhaft.com, H-E-R-Z-H-A-F-T, avec voilà. Un nom pareil. On a dû te l'écorcher plusieurs fois sur des affiches de festivals.
Oui, mais enfin, c'est un nom qui s'éternue facilement, donc on peut le retenir.
D'accord. Et puis, j'étais en train de me rendre sur le site, et puis dans la catégorie shows, voilà, on s'aperçoit qu'il y a des dizaines de dates qui arrivent à partir de début mai, et puis ça s'étire jusqu'à fin juin.
Depuis que j'ai repris donc la musique en cours de ma vie, là, après 25 ans d'absence des scènes, je fais une moyenne de 100 dates par an.
C'est énorme. C'est énorme pour la France, c'est énorme pour le blues, et c'est énorme tout court, j'ai envie de dire. 100 dates par an, ça veut dire un jour sur 3 ou 4 à jouer.
Oui, mais pas qu'en France. Là, j'étais en tournée en Bulgarie il n'y a pas longtemps. L'année dernière, j'ai fait le Canada, avant ça, la Nouvelle-Calédonie. Avant ça, j'étais en Argentine. Enfin, bref, si je me limitais à la France, c'est sûr que ça aurait plus de mal.
Alors,
et la Belgique aussi, j'y habite.
Ben voilà, Cisco, tu joues en France souvent et tu payes tes impôts en Belgique ou bien ? Comment ça se passe ?
Oui, tout à fait, je paye mes impôts en Belgique. Voilà. Mais il ne faut pas croire que c'est un avantage.
Hein, non.
Faire impôts sur le revenu en Belgique.
C'était un petit clin d'œil, simplement. Voilà, je voulais te remercier.
Oui.
Est-ce que j'ai oublié de te demander quelque chose à propos de l'album, à propos de ton actualité, Cisco Herzhaft ?
Oui.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
C'est-à-dire non. Non, parce que l'album vient de sortir. Hein, je crois qu'il est sorti dans les bacs pas plus tôt qu'hier, ou avant-hier. Donc c'est Socalis qui le distribue, et on le trouve sur toutes les bonnes plateformes en téléchargement, si on veut, ou bien sûr à l'achat matériel sur Amazon, Fnac, etc., etc.
Très bien. Un petit clin d'œil à Déborah qui s'occupe toujours de ta carrière, de tes dates, de ton actu et du site aussi, j'imagine.
Tout à fait. C'est mon manager.
Ah, voilà. On va continuer l'écoute de ce disque avec les deux titres que tu partages avec ces jeunes musiciens. Et en tout cas, merci beaucoup pour ton accueil, ton enthousiasme, ton dynamisme, et puis le fait de continuer à faire perdurer le blues tout en lui apportant des touches moderne, ça c'est pas tout le monde qui le fait.
Et merci Marc.
Merci Cisco.
Et on espère à bientôt.
À très bientôt sur la route du blues, exactement. Au revoir.
Salut.
Voilà, nous on va continuer avec ce fameux extrait. Vous allez peut-être savoir tout de suite de quoi il s'agit. Old Black Train.
Mind. This old black train.